Il est compliqué d'apporter une parole lors d'un culte quand le Saint-Esprit a décidé de prendre les commandes. Ce culte a commencé avec des chants, et puis j'ai entendu la prière de Laurence. Et j'ai regretté qu'elle ne soit pas enregistrée. Parce que c'était une prière comme un cri du cœur pour l'âme qui se tourne vers Dieu. Et je l'ai écoutée attentivement, je me suis dit, mais pff, je ne savais pas qu'elle était là, derrière mon dos, quand j'ai lu le texte et j'ai choisi d'apporter une prédication ce matin. Alors je me dis, Laurence, quand est-ce que tu prêcheras? Et derrière la vitre, dans la garderie, il y a quelqu'un qui me fait ça comme ça. Mais à défaut de prêcher, continue à prier comme cela sous l'action de l'Esprit. Vraiment, vraiment. Je crois qu'il y a dans les mots que tu as prononcés ce matin un cri du cœur qui est ce cri que chaque croyant devrait prononcer dans la présence de Dieu. Et puis il y a une parole prophétique de Francine concernant le fait de choisir le chemin de la vie, c'est ça ? Ou le chemin de la mort, c'est un choix. J'ai un dessein pour ta vie, je veux me révéler au travers de ta vie. Je ne te forcerai pas, mais je t'appelle. Choisis la vie, choisis-moi. Là encore, je me disais, mais elle a dû lire mes notes ou elle a dû regarder le texte. Descends parfois dans mon bureau quand je travaille. Quand est-ce que tu vas prêcher ? La semaine prochaine, je crois. Mais je le dis avec beaucoup d'émotion. C'est étonnant quand Dieu et l'Esprit Saint sont là pour nous répéter des choses et nous appeler. Et lorsque Dieu disait « je ne te forcerai pas, mais je t'invite à choisir la vie parce que j'ai des plans pour ta vie. Choisis la vie, choisis-moi. » Ce matin, il y avait un appel sérieux pour toi ce matin. Pour moi. Et Dieu s'est répété. Qu'est-ce que nous allons dire ? Et la dernière parole, c'est une parole qui disait « Fais le choix de la confiance. Fais un pas de foi. » Parce que ce pas de foi, c'est un moment de bascule dans ta vie maintenant. Ça peut changer ta vie du tout au tout. Là encore, je me dis, est-ce que c'est la peine que j'apporte une prédication, que je m'arrête sur un texte ? Tout est dit. Tout est dit, mais tout n'est pas fait. Parce qu'il nous appartient maintenant de nous poser la question, qu'est-ce que je fais de ce qui a été dit ce matin dans ma vie ? Et je crois que nous sommes tous concernés. Qu'est-ce que je fais de l'appel de Dieu, de la parole de Dieu ? Tu vas faire un acte de confiance ou tu fais un acte de confiance sans rien savoir. Et la phrase qui suit est terrible. Tu vas faire un acte de confiance et tu n'auras aucun pouvoir sur rien. Tout ce que je déteste. C'est vraiment quelque chose qui... Ne pas pouvoir maîtriser les choses. Et pourtant, la foi, c'est cela. Ne plus avoir prise sur rien, sinon la confiance que j'ai en Dieu. Alors, est-ce que nous sommes prêts à entrer dans cette dimension-là ? Vous allez comprendre pourquoi, de la prière de Laurence jusqu'à ses paroles prophétiques, j'ai été étonné de la ligne qui est donnée à ce culte. Et j'ai demandé à Rémi de lire le texte que j'ai choisi. Vous le connaissez tous. C'est une parabole. Et j'ai demandé à Rémi de le lire. dans une version qui est une version qu'on ne connaît pas forcément couramment, c'est la version de la Bible traduite par André Chouraqui. Et je trouve qu'il y a dans la traduction d'André Chouraqui une richesse, une force pour un homme qui connaissait et maîtrisait aussi bien l'hébreu que le grec. Et je vais vous demander simplement d'écouter ce texte. Tu peux mettre la première diapo qui restera affichée tout au long de ce passage. Et je vais demander à Rémi tranquillement de venir au micro et de vous lire le texte que nous allons partager ensemble.
Le fils perdu, toute allusion à des personnages existants ou ayant existé, il dit, un homme a deux fils. Le plus jeune dit au père, « Père, donne-moi la part de subsistance qui me revient. » Il leur répartit la vivance. Oui, en effet. Peu de jours plus tard, le plus jeune rassemble tout et part vers un pays lointain. Il dissipe là son patrimoine en vivant follement. Quand il a tout dépensé, c'est une forte famine dans ce pays. Il commence à être dans le dénuement. Il va s'attacher à l'un des citoyens du pays qu'il envoie dans ses champs faire paître ses cochons. Il aspire à se rassasier des caroubes que mangent les cochons, mais personne ne lui en donne. Mais venant lui-même, il se dit, « Tant de salariés de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris de faim ici. Je me lèverai donc. J'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai fauté contre le ciel et devant tes faces. Je ne vaux plus d'être encore appelé ton fils. Fais-moi comme un de tes salariés. » Il se relève et vient vers son père. Étant encore loin, son père le voit. Pris aux entrailles, il court se jeter à son cou et, se penchant, l'embrasse. Le fils lui dit, ça va être dur, hein. Père, j'ai fauté contre le ciel et devant tes faces. Je ne vaux plus d'être appelé encore ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs. Drôle d'idée quand même, toi. Apportez en hâte la plus belle tunique et l'en revêtez. Donnez-lui un anneau pour sa main, des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Quelle idée. Mon fils que voilà était mort et il revit. Il était perdu, il est retrouvé. Il commence à festoyer. Son fils aîné était au champ. En revenant, il s'approche de la maison, entend musique et chœur. Appelle un des garçons et s'enquiert. Qu'est-ce donc? Il lui dit, ton frère est venu. Ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Mais il brûle et refuse d'entrer. Son père sort et le supplie. Il répond et dit à son père, « Voilà tant d'années que je te sers et jamais je ne suis passé outre à un ordre de toi. Mais à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et ton fils que voilà revient, il engloutit ta fortune avec des putains et tu immoles pour lui le veau gras. » Il lui dit, « Enfant, toi tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais il faut festoyer et se réjouir. Parce que ton frère que voilà était mort, et il ressuscite. Il était perdu, et il est retrouvé. De rien. »
Il n'y a pas de hasard. Cette traduction est étonnante. Il y a des mots qui m'ont frappé, qui moi aussi, alors que j'étais seul dans mon bureau, m'ont retourné. À commencer par le titre de ce passage. Dans nos Bibles et dans la vôtre, très certainement, la traduction de ce passage commence par le titre du fils prodigue. Et pendant que Rémi lisait, je me disais, ça fait 50 ans. Certainement environ 50 ans que j'ai lu, oui, largement 50 ans, que j'ai lu pour la première fois où j'ai entendu ce récit. Et j'ai jamais compris le titre, le fils prodigue. Quand je lisais l'histoire, quand je l'entendais, quand quelqu'un prêchait dessus, J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui vivait bien, le fils prodigue, celui qui fait preuve de prodigalité. Et je ne voyais pas le rapport avec le récit. Mais lorsque j'ai relu le titre qu'a donné André Chouraki à ce passage, le fils perdu, j'ai dit oui, là je comprends et j'adhère. C'est pas seulement quelqu'un qui fait preuve de prodigalité, qui disperse les biens qui lui appartiennent, qui s'éclate, c'est quelqu'un qui est perdu. Et à ce titre, nous sommes tous concernés. Nous avons tous été perdus. Et peut-être que ce matin, parmi nous, il y en a qui sont encore perdus. Avoir donné sa vie à Christ n'empêche pas qu'à un moment donné, nous soyons placés dans la situation de devoir tout à nouveau revenir vers le Père. J'aime ce texte. Ce texte qui dit, il y avait un homme qui avait deux fils et le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Est-ce que vous avez bien entendu cette dernière phrase ? Et le père leur partagea son bien. Ça veut dire que le fils aîné, il a eu aussi sa part dans ce texte. On l'oublie souvent parce qu'on est fixé sur le fils perdu, mais au moment où le fils cadet demande sa part de l'héritage, il leur donne son bien à tous les deux, et au cadet et à l'aîné. Vous vous rappelez ? On reviendra sur la parole de l'aîné qui dit « Mais moi, quand je suis toujours là dans ta présence, et puis tu ne me donnes rien, pas même un chevreau !» Non, il ne lui a pas donné un chevreau, il lui a donné sa part d'héritage à lui aussi. Mais il ne la voit pas. Il ne considère pas ce qu'il a reçu. Combien parfois nous sommes aussi dans la même attitude que le fils aîné. Nous sommes aussi le fils cadet, mais parfois, comme le fils aîné, nous ne voyons plus ou nous ne considérons pas tout ce que Dieu nous a donné de son héritage. Est-ce que nous pouvons faire comme le cadet ce matin et rentrer en nous-mêmes pour être interpellés par ce que Dieu nous a donné véritablement? Je ne t'ai pas donné de chevreau. Non, je ne t'ai pas donné de chevreau. Tout ce que j'ai est à toi. Ah, je n'avais pas vu, Seigneur. Je n'avais pas vu que tout ce que tu m'avais donné était là sous mes yeux. Dieu nous confie notre héritage. Les deux fils, celui qui reste comme celui qui part, en ont la propriété. Alors, je vous le dis, chers amis, qu'est-ce que Dieu nous a donné ? Est-ce que le Saint-Esprit, là maintenant, nous interpelle pour que notre regard s'arrête sur ce qu'il a déposé en nous, sur l'héritage qui est le nôtre ? L'apôtre Paul dira que nous sommes devenus fils et que nous n'avons pas réellement à l'héritage du Père. Donne-moi juste un agneau, Seigneur. Je ne demande pas plus. Mais tu as tout. Tout est à toi. En Jésus-Christ. Ce récit est un récit particulier puisqu'il commence dans une conversation à partir du chapitre 15. Où tous ceux qui sont là sont des péagers, des pêcheurs, des pharisiens et des scribes. C'est-à-dire que dans cette série de trois paraboles, il y a celle de la brebis perdue, de la drachme perdue, du fils prodigue, il y a quelque chose qui est au centre, c'est la question de l'argent. Ou de la valeur, de ce qui est précieux ou pas. Et si vous remontez un petit peu plus, vous avez d'autres paraboles qui précèdent, qui sont toujours sur quelle est la valeur des choses. Et dans ce récit du chapitre 15, on voit bien que la question de ce que l'on possède, de la valeur que l'on donne à ce qui est à nous, est au centre. Jésus s'adresse à des pharisiens, des scribes, mais aussi à des inspecteurs des impôts. Ils savent qu'est-ce qui est au centre de la vie. Ouais. la pièce retrouvée, on a perdu une drachme. C'était pas n'importe quoi. C'était une pièce d'argent de très grande valeur. Je l'ai perdue, je l'ai retrouvée. Et puis, le fils prodigue qui prend ses biens et qui va les disperser. Et puis, celui qui était né et qui ne se rend pas compte de ce qu'il a véritablement. De ce que tu es en tant qu'héritier. Alors, on pourrait dire qu'au chapitre 16, Luc renfonce le clou en disant qu'il est nécessaire de choisir de servir Dieu ou Mammon. Chapitre 16, le chapitre suivant. J'étais hier en réunion avec l'association Passerelle qui s'occupe des migrants, des personnes défavorisées. On a travaillé ensemble et quelques-uns étaient là, présents. Et j'ai parlé avec un pasteur de la question de l'argent dans l'Église. Et c'est un ami très proche, et il me disait combien il était en difficulté parce que une certaine vision de l'Église aujourd'hui, c'est qu'il faut donner, pour payer des locaux, pour faire ceci, et que l'implantation ou la croissance de l'Église dépend de l'argent qu'on va y mettre. Ouais. Et lui, comme moi, on est sur des positions très, très divergentes par rapport à ce courant. Est-ce que l'argent peut pas être non plus un maître dans l'Église. Vous avez vu qu'on ne fait pas de collecte, on ne fait pas passer de panier. Hein? Chacun est devant Dieu et donne ce qui est nécessaire à l'Église et rend à Dieu par reconnaissance ce que Dieu lui a donné. Alors nous sommes à contre-courant, je vous le dis. Quand j'ai annoncé que nous, on ne faisait pas circuler de panier, qu'on ne faisait pas venir les gens devant pour, au vu de tout le monde, donner son enveloppe et sa dîme, on m'a dit que, non pas j'étais un hérétique, mais que quand même, j'étais pas dans la pensée de Dieu pour l'Église. Ouais. Ici, il est question, là aussi, de choix. Qu'est-ce qui dicte ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important? Et le fils cadet dit, moi je veux avoir ma part. Les personnages de cette parabole, il y a un père, un fils aîné, un fils cadet. Et deux frères qui sont sur des positions différentes. La Bible est remplie de récits de frères. Vous en rappelez Caïn, Abel, mais vous avez aussi Isaac et Ismaël, Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères. Et souvent des récits où le cadet l'emporte sur l'aîné, c'est-à-dire sur le droit d'aînesse, qui est pourtant quelque chose qui avait été décidé dans la construction familiale. Et puis, il y a aussi dans cette parabole, la question de l'aliénation. De quoi nous dépendons dans notre vie? Quelles sont les croyances qui, pour nous, décident de ce qui est le plus important, de ce qui a le plus de valeur? Il y a le fils prodigue qui décide, par aliénation à cette croyance, c'est important que j'ai ma part d'héritage et que j'en profite, qui rompt avec tout ce qui faisait son origine, tout ce qu'il est, dans son lien avec son père, avec sa famille. Et quelque part, les valeurs que nous mettons dans notre vie, est-ce qu'elles ne sont pas, à un moment donné, une aliénation qui vise à rompre la filiation et la relation que notre père veut avoir avec nous? Quelles sont tes croyances? Quelles sont tes priorités? Qu'est-ce qui a de la valeur dans ta vie aujourd'hui? Avant son départ, le fils perdu, ou qui va se perdre, exige la part qui lui revient. Et en grec, ce mot, cette part, c'est ousia. C'est un terme qui désigne le bien et la fortune. Donne-moi la fortune qui me revient. Et le père lui donne, mais lorsqu'il lui donne, il est dit qu'il utilise le mot bio, c'est-à-dire, d'ailleurs c'est un mot qui a sur lequel Rémi a accroché, parce qu'il est étonnant, effectivement. Père, donne-moi la part de subsistance qui me revient. C'est-à-dire, ce qui me permet de m'éclater, de vivre, etc. Il leur répartit la vivance. Oh, c'est pas un terme qu'on a l'habitude, la vivance. C'est pas, quelque part, ce qui va me permettre de subsister. Je vais faire un jeu de mots en français. Donne-moi ce qui va me permettre de survivre. Et il leur donna ce qui permet de vivre. Il y a une différence entre survivre et vivre. Le fils cadet a choisi de partir avec ce qu'il était. Voilà ce que je veux. Vous avez un premier texte qui parle de la même chose. Adam et Ève. Adam et Ève décident de survivre, de partir avec ce qu'ils ont en eux, pour eux, ce qu'ils considèrent comme prioritaire. Et ils vont sortir du jardin d'Éden, de la présence du Père. Le fils cadet fait le même choix. Je veux partir avec ce que j'ai, ce que je suis, mes priorités et mes valeurs. Ouais. Il va survivre. Oh, au début, c'est amusant de survivre. J'avais quelque chose à vous partager. Ah, voilà. Alors, ceci est quelque chose que je vais vous faire passer. Alors, pour ceux qui écouteront la prédication sur Internet, évidemment, il s'agit d'une gousse très noire, sèche. Il y a une seule personne qui sait, enfin, avec ma femme, parce que depuis que je l'ai dans ma véranda, je vais vous demander de vous la passer, de la regarder, vous pouvez la sentir, elle sent rien. Hein ? Et puis, c'est en lien avec le texte que nous avons lu. Allez, je vous fais passer, ça prend une seconde, deux secondes, touchez là, regardez là, sentez les graines qui sont à l'intérieur, et puis passez à votre voisin, d'accord ? Allez, Hervé, il ne me croit pas, il sent quand même. Hein. Oui, tu sens, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Hein. Théo, tu as même le droit de venir pour toucher l'objet, si tu veux. Hein. Et à l'écran, vous avez un tableau, et ce tableau-là, on y reviendra, c'est pas n'importe quel tableau, c'est un petit peintre, il est un petit peu connu, et qui a représenté... Alors, oh Christiane, t'as pas besoin, c'est toi qui me l'as donné. Et je vous dirai après ce que c'est. Et le tableau qui est là, là aussi, pour ceux qui écouteront la prédication, je vous invite à le rechercher tout en écoutant ce partage, c'est un tableau qui représente le retour du fils perdu. On y voit le père, le fils, l'entourage, les serviteurs qui vont être sollicités pour revêtir le fils qui est dans ses guenilles. Et il y a quelque chose que vous ne discernez pratiquement pas sur ce tableau. C'est quoi ? C'est qui ? Qui est-ce qui manque ? Le fils aîné. Est-ce que vous le voyez, le fils aîné ? Il est tout en haut, à gauche, caché. On discerne à peine sa silhouette. Le fils aîné, quelque part, il est en retrait. Il ne participe pas. Et c'est un petit peintre, je ne sais pas si vous le connaissez, mais un petit peintre hollandais qui s'appelle Rembrandt, je crois. Voilà. On y reviendra à ce tableau. Et j'ai dit, on laisse le tableau, on ne va pas diffuser le texte, vous l'avez entendu. Voilà. Et donc, il est dit que le fils cadet demande à avoir sa part de subsistance et lui, il donne au fils cadet et à l'aîné la part de vivance, de vie. Moi, j'aime ce terme. Alors, le registre de l'économique est bien présent, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que je choisis, la vie, la mort, de quelle manière, sur quelle valeur ? Et il se trouve que à un moment donné, ce texte parle bien, et c'est pour ça que je disais, mais est-ce que Francine a lu mes notes ? Ce texte parle de la vie et de la mort. Qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis la vie ou est-ce que je choisis la mort ? Quels sont les moyens qui sont pour moi les plus importants ? Et le Père donne à ses enfants de quoi vivre. Eux, ils prennent, ils font le choix de survivre. Et à un moment donné, dans cette parabole, il y a le fils cadet qui dit à un moment donné qu'il vit privé de salut. Quand il est devant, quand il a tout dépensé, c'est une forte famine dans le pays, il commence à être dans le dénuement. Et le mot qui est utilisé là, c'est « zon asotos ». Asotos, vous ne connaissez peut-être pas dans le grec, mais Asoto s'est formé avec sauter, sozo, sauveur. Et en fait, il est dit qu'il est vivant sans salut. C'est cela le terme qui est utilisé dans le texte et traduit par Chouraki dans le grand dénuement. C'est-à-dire, il n'y a plus de salut. Faire le choix de la mort et non pas le choix de la vie, c'est de vivre sans salut. Et il se retrouve dans le besoin. Alors, je ne vais pas revenir sur la pyramide de besoins de Maslow, un psychologue des années 50, qui avait défini les besoins de l'être humain en disant les besoins de l'être humain, c'est d'abord son besoin, les besoins primaires, c'est-à-dire manger, boire, dormir, respirer. Ensuite, c'est le besoin de sécurité. Ensuite, au-dessus, c'est les besoins d'appartenance, appartenir à un groupe, à une famille. Ensuite, il y a les besoins d'estime de soi, important. Et puis, enfin, le besoin spirituel qui permet de s'accomplir dans toutes les dimensions de son être. Il s'est retrouvé dans le dénuement. C'est-à-dire qu'il n'avait plus de quoi couvrir ses besoins. Le besoin primaire, manger, boire, dormir, il dormait dehors certainement et il n'avait pas de quoi manger. Vous avez fait circuler le petit, la petite chose ? Allez-y. Ensuite, il y avait le besoin de sécurité. Il n'était pas en sécurité, son avenir n'était pas assuré. Être sans Dieu, faire le choix de se séparer de Dieu, c'est abandonner toute possibilité de sécurité profonde pour mon âme, mon corps et mon esprit. Le besoin d'appartenance, il n'était plus appartenant à une famille. Non. Il était seul. Le besoin d'estime de soi, il avait tout perdu. Il dira même à un moment donné, en méditant sur sa situation, « Je ne suis plus rien ». Je suis même moins que les salariés, et un des termes qui est utilisé dans les traductions, que les mercenaires de mon père. Je suis moins qu'eux. Et puis, les besoins spirituels, il n'y a plus rien. Le ciel est fermé. Qu'en est-il de moi aujourd'hui ? Dans ce texte, il est dit que le fils perdu commence lorsqu'il est privé de salut, quand il n'a plus aucune espérance, il rentre dans la première étape d'un processus. Il rentre en lui-même. Un pasteur de la région parisienne me téléphonait il y a quelques 2 semaines et il était en larmes. Il me disait, je suis allé à une réunion régional de tous les pasteurs de notre église. Et là, on m'a expliqué ce que c'était que l'église. Quelle était la mission de l'église. Et là, on m'a dit, en fait, dans l'église, il faut pas avoir un discours trop fermé, trop rigide, trop fort. Il ne faut surtout pas parler que nous sommes face à un choix de la vie, de la mort. Non. Et un responsable a utilisé ces mots en disant « Faites rentrer dans l'église et les herbes folles et le blé qui doit y pousser. Faites rentrer tout le monde. Soyons pas sélectifs. N'ayons pas de discours trop tranchés. Et puis, au contact des bonnes herbes ou du blé, les herbes folles vont se transformer. » Waouh ! Et il m'a appelé après en me disant, « Mais j'ai rien compris, ça fait 30 ans que je pense que la mission de l'Église, c'est d'annoncer la vie. C'est d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. » Effectivement, on a parlé ensemble. Et je l'ai rassuré en disant, mais je crois moi aussi que la mission de l'Église, ce n'est pas d'avoir un discours lénifiant, confortable, soyez bien, vous êtes bien, etc. Il y a des personnes qui arrivent, on leur a filé ça, ils se disent, mais je fais quoi avec ça? C'est pour la Sainte Seine. On a changé. C'est toujours ma gousse qui est revenue à moi. Et en fait, le message et la mission de l'Église, c'est d'annoncer la vie à ceux qui sont perdus. Et la première étape du processus, c'est d'être capable, comme le fils perdu, de rentrer en lui-même. Le fils perdu, en fait, il prend conscience que ses choix, la manière dont il a mis des valeurs en priorité dans sa vie, ça a été le tournant qui l'a fait basculer vers quelque chose qui progressivement l'a amené à tout perdre et à voir tout ce qu'il était, tout son héritage, tous les besoins auxquels Dieu voulait répondre, finalement disparaître comme de l'eau au travers du sable. Il avait été complètement, on pourrait dire, en dehors de lui-même, on va dire de manière un peu triviale, à côté de ses pompes. Il raisonnait mal, il était victime de son erreur, et là, il rentre en lui-même. La première étape, c'est la conversion. La direction que j'ai prise n'est pas la bonne dans ma vie. Alors, on va dire, oui, mais attendez, vous parlez à des chrétiens, ou à des gens qui sont déjà chrétiens, ou qui le sont devenus, est-ce que ça nous concerne ? Oui, parce que nous sommes, tout au long de notre marche avec Dieu, appelés à prendre conscience aussi des moments où nous nous sommes égarés, où nous avons donné à notre vie une direction qui n'est pas celle que Dieu a prévue pour nous. Est-ce que je suis capable de rentrer en moi-même ? Et vous savez quoi ? En ce qui me concerne, j'ai une capacité de résistance pour rentrer en moi-même. Et je parlais avec un autre pasteur hier soir, qui était en très grande souffrance, et il me disait, heureusement que Dieu a mis à côté de moi une femme qui m'aide à vivre ces moments-là, qui me soutient. Mais il me disait lui-même combien c'était difficile de changer, d'accepter de rentrer en soi et d'accepter aussi les erreurs qu'on a faites. Alors je lui ai expliqué comment on faisait. Et tout en lui disant, je disais, mais tu sais, je suis à peu près au même niveau que toi. Être rentré en soi-même. Aucune décision ne peut se prendre pour Dieu sans qu'il y ait une démarche de conversion et de repentance. Alors les deux choses sont importantes. La repentance, c'est regretter ce qu'on a vécu et qui nous a éloignés de Dieu. Et la conversion, c'est changer de direction. Je peux me repentir, mais si je me repens et que je ne change pas de direction et que je continue dans mes choix, mes croyances, les valeurs que je pose dans ma vie, vous savez quoi ? La repentance, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, il s'agit de ne pas s'enfermer, parfois pour se punir soi-même, dans son erreur, dans ses choix, quand on sait que la voix de Dieu pour nous est différente. J'ai entendu bien souvent des personnes me dire, mais maintenant que je suis dans cette direction-là, je ne peux plus retourner en arrière. C'est difficile, c'est compliqué. Et puis qu'est-ce que les autres peuvent penser, etc. Et il y a des personnes qui continuent dans leur chemin en se disant, bah, maintenant que j'en suis là, il y en a qui sont concernés par ça ? Moi, combien de fois j'ai pu dire, oh, bah, maintenant que je suis là, je continue. Jusqu'au moment où Dieu, dans sa grâce, me dit, mais attends, tu as le droit. Tu as le droit d'arrêter. C'est ce qu'on disait avec un ami hier soir. Tu as le droit de changer de direction et de t'arrêter. Waouh ! Mon Père me donne cette possibilité de m'arrêter, de rentrer en moi-même et de choisir une autre direction dans ma vie. Waouh ! Ne pas s'obstiner dans des certitudes qui n'ont aucune raison d'être. Oser regarder ce que l'Esprit Saint met sous mon regard en me disant, mais voilà, tu es en train de dilapider ton héritage personnel, ce que Dieu a donné, t'a donné, et je ne parle pas des biens terrestres, mais dans ta personne, dans les dons, dans les qualités. Je parlais à quelqu'un ce matin dont je suis jaloux, parce que s'il est tout seul dans une pièce avec 20 personnes et qu'il y a 4 enfants qui viennent, les 4 enfants vont aller jouer avec lui, pas avec moi. J'ai essayé encore ce matin, j'ai fait ça avec Clément. Il regardait cette personne-là. Moi, je me suis approché, j'ai fait guili-guili, l'intéressant, tout. Il s'est tourné vers sa mère et il s'est accroché à elle. J'ai dit, bon, d'accord, ça continue. Quels sont les dons, les richesses que Dieu nous a données ? Et il y a une chose aussi qui est, qui a été dite dans la prière tout à l'heure de Laurent. Je me suis dit, mais elle a lu mes notes, c'est pas possible. La repentance et la conversion reposent sur la capacité d'avoir une attitude d'humilité, d'arrêter de vouloir tout diriger, conduire selon ses croyances, ses pensées, etc. Devant Dieu, faire preuve d'humilité. Ne pas s'enfermer dans une position d'orgueil en disant « Mais oui, je sais bien !» Moi, je sais très bien faire ça. Quand je parle avec ma femme, elle me dit toujours, quand elle me parle et qu'elle me donne son avis, ma réaction tout de suite, c'est de dire « Mais non !» Je dis « Mais... » Elle me dit souvent « Mais si tu pouvais me dire, simplement me laisser dire, avant de dire « Mais non !» Je dis « Mais oui, mais je veux te donner mon avis !»« Oui, mais écoute le mien !» Vous agissez pas comme ça, vous, les autres maris. Mais non. Faire preuve d'humilité devant Dieu, pas s'enformer dans une position d'orgueil. Le roi David, c'était un de ceux qui, dans l'Écriture, était certainement le plus capable de faire preuve d'humilité. Il était roi, mais lorsqu'il se plantait, et il s'est planté. Si on met le roi Saül et le roi David côte à côte et qu'on fait le déroulé de leur vie, on y en a un qui a été rejeté, c'est Saül, l'autre qui a été considéré comme un roi modèle. Et pourtant, on peut dire que David a fait des erreurs monumentales. Ce qui l'a sauvé, c'est sa capacité à se repentir sincèrement devant Dieu et à changer de direction, à se convertir. La deuxième phase qui suit la repentance et la conversion, c'est lorsque le fils perdu dit en lui-même « Je me lèverai donc, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai fauté contre le ciel et devant tes faces » C'est un terme qu'on retrouve beaucoup en hébreu, « devant tes faces » parce que le père, il a des faces différentes en fonction de la relation qu'on entretient avec lui. Et c'était une manière aussi de parler du vis-à-vis qu'on a avec Dieu, les faces de Dieu en hébreu. « J'ai fauté contre tes faces, je ne vaux plus d'être encore appelé ton fils, fais-moi comme un de tes salariés ou de tes mercenaires. » Voilà. « Je me lèverai donc ». C'est-à-dire que quelque part, il dit « je vais me lever, je vais devoir faire un effort ». Vous savez, la conversion, ce n'est pas simplement intellectuel. Quelque part, quand il dit « je vais me lever », c'est aussi « je vais faire un effort et me mettre en route dans une autre direction, même si cette direction, elle est toute intérieure ». Est-ce que tu es prêt à faire cette démarche-là, te lever ? Ah non, mais moi, ça y est, je me suis repenti, donc c'est bon. Ouais, mais la conversion, c'est se lever, changer de direction. J'aime beaucoup ça parce que c'est un sport que j'ai jamais fait. Hein. J'explique souvent qu'en ski, la conversion, c'est quand... Alors, je vais vous le faire, je vais vous le mimer. Là encore, ça va être très bien pour ceux qui vont écouter la prédication sur Internet. La conversion en ski, c'est vous prenez un ski, vous le faites tourner avec votre chaussure. Donc vous avez pratiquement les pieds soit à angle droit, soit si vous êtes très fort à l'envers dans les deux sens. Puis ensuite vous soulevez le deuxième et vous le remettez dans le sens du premier. C'est ce qu'on appelle une conversion en ski, c'est ce qui permet de changer de direction. J'ai jamais essayé, mais il paraît que ça marche. Est-ce que ça c'est aussi quelque chose, c'est un effort que nous pouvons et que nous voulons faire dans notre vie? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. C'est un processus qui conduit à une décision. Une décision qui prend sa source dans le dégoût que j'ai de ma condition présente. Alors, c'est quoi ça? Alors, il y en a qui ont trouvé, qui savent peut-être. Qui sait? Allez, levez la main ceux qui savent. Un. Oui, mais Francine, tu triches. Mais c'est bien, lève la main quand même. Mais non. C'est une pousse de caroube. Une pousse de caroube. Le fils prodigue, il est dit qu'il était devant ses champs dans une déchéance complète puisqu'il gardait des porcs, ce qui en Israël est la pire des conditions, le porc étant un animal impur. Et il voyait les porcs manger des caroubes et il se disait « Mais moi, j'en ai même pas... » le droit. C'est-à-dire, j'ai même pas le droit de me nourrir de ça. Et ça, c'est une caroube que Christiane m'a, m'a donné, j'ai essayé de récupérer les graines, ça n'a pas poussé. Hein. Elles sont vraiment... Comment ? Ah oui, mais je les ai laissées ramollir dans l'eau. C'est une pousse et vous avez une quinzaine de graines là-dedans. On me disait, les cochons mangeaient ça, j'ai même pas le droit de manger de ça. Alors vous me direz, mais est-ce que c'est bon à manger pour les hommes ? Eh bien, figurez-vous qu'au Maghreb, et notamment en Égypte, c'est une plante qui peut atteindre 4 mètres et qui fournit ses gousses comme ça, comme des gros haricots plats. Mais alors, vous avez des, si vous avez touché un petit peu, vous avez une quinzaine de graines, elles sont toutes, toutes petites, ce n'est pas des grosses graines. Hein. Par contre, quand c'est frais, ceux qui les mangent peuvent gratter l'intérieur de la cosse. Vous avez une pulpe un peu jaune-orangée. Et en fait, ça a un certain goût. Alors on se dit, ah oui, mais les caroubes, si c'est donné aux cochons, ça ne devrait pas être bon, ça doit être amer, etc. Bah, figurez-vous que le goût, c'est un goût de cacao. Et qu'en fait, en Égypte, entre autres, ils en font des boissons qui sont appréciées parce que ça sert de substitut au cacao dans certains pays du Maghreb pour des boissons avec du lait, etc. Alors c'est très pauvre en sucre, etc. Donc il y a certains avantages. J'ai envie de dire, on pense que dans la Seine, il faudrait que ce soit quelque chose qu'on donne aux bêtes. Non, non, les caroubes, ça peut être agréable. La vie sans Dieu, ça peut être agréable. Avancer selon ses propres désirs et ses envies, il n'y a rien de désagréable là-dedans. Au cours d'une formation en alcoolologie, il y a un formateur qui disait, au bout d'une semaine de formation, donc, qu'est-ce que vous pensez du fait d'être dépendant, de consommer de l'alcool ? Et il y avait un ami du mouvement Croix-Bleue qui était là depuis une semaine, il dit, ah, oh, boire de l'alcool, il n'y a rien de pire, c'est mauvais ! Et puis il a développé là-dessus, parce que étant dépendant lui-même, il se dit, ben non, c'est arrière de moi. Et puis, il y a l'animateur, au bout de 5 jours, il se dit, ah bon, c'est mauvais. Mais alors pourquoi il y a autant de malades alcooliques si c'est mauvais ? Et là, l'autre dit, ah oui, c'est vrai. Non, être dans des chemins qui ne sont pas ceux de Dieu, c'est pas désagréable. On répond à ses désirs, ses envies, à ses propres besoins, sauf qu'on dilapide les richesses que Dieu a déposées dans nos vies. Ah, alors la caroube, c'est ça. Et à un moment donné, le fils prodigue dit, même ça, j'y ai pas droit. J'ai perdu tout ce que j'avais. Est-ce que tu as aussi ce constat-là qui te fait dire, et si je revenais à Dieu ? Pas simplement dans une conversion initiale, mais aussi parce que tu sens bien que tu es en train de t'éloigner des chemins et de la pensée de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu veux faire une conversion là aussi ? Tout le culte et toutes les choses que nous avons vécues allaient dans ce sens-là. Une décision qui est aussi dictée pour le fils prodigue, ou fils perdu, je préfère cette expression-là, par le mal du pays. Ouais. Le fils prodigue a à la fois le constat que sa situation n'est pas terrible, et qu'il n'est pas en train de vivre ce qui est le plus exaltant pour lui, mais il a le mal du pays. Ah, si j'allais vers mon père, si je rentrais chez lui, eh bien, il y a du pain en abondance, il y a une situation idéale. Et en fait, je crois qu'il y a dans chaque homme et chaque femme ayant vécu sur cette terre le mal du pays d'origine. Et ce pays d'origine, c'est la présence de Dieu. Quelqu'un disait, il y a dans le cœur de tout homme un vide en forme de Dieu. J'aime cette expression. Mais c'est aussi ça qui fait que quand nous sommes loin du meilleur de Dieu, de la pensée de Dieu, il y a un mal du pays. On se dit, waouh, je me souviens quand j'ai vécu. C'est pour ça que cette parabole s'adresse aussi à ceux qui ont déjà vécu leur conversion, mais qui ont peut-être commencé à choisir des chemins, à vivre des choses. Eh bien, si vous avez le mal du pays, de la volonté de Dieu, de sa grâce, chaque matin, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends une décision ? Et une décision chez le... Il faut dire qu'il est peut-être arrivé au bout du rouleau. Le fils prodigue, sa décision, c'est d'y aller maintenant, tout de suite et maintenant. Et la réaction, c'est le père le reçoit. Vous savez, rappelez-vous le texte, il disait, je vais aller me présenter à lui, je lui dirai, voilà. Et la parole du fils perdu, c'est « Père, j'ai fauté contre le ciel et devant tes faces. Je ne vaux plus d'être encore appelé ton fils. Fais-moi comme un de tes salariés. » Il se relève et va vers son père. Étant encore loin, son père le voit, pris aux entrailles, il court se jeter à son cou et se penchant l'embrasse. Vous savez que ce texte-là nous parle de l'œuvre accomplie en Jésus-Christ. Alors qu'il était encore loin, son père le voit et pris aux entrailles. Et en fait, ça rejoint quelque chose qu'on va voir tout de suite, je ne vais pas faire beaucoup plus long, mais les entrailles, c'est les entrailles de miséricorde de Dieu pour chacun de ses enfants. Et le mot entrailles, c'est en fait l'utérus en hébreu, c'est-à-dire les organes féminins. Dieu a des entrailles de miséricorde. Et c'est en hébreu, c'est l'utérus et tout l'organe féminin qui porte l'enfant. Ah, Dieu est aussi non seulement un père, mais il a aussi un cœur de mère. Et il va venir à la rencontre. C'est-à-dire que quelque part, le père va accorder son pardon. La deuxième diapo, et on va voir. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, tableau de Rembrandt qui parle du fils perdu. Et quand on réduit la taille du tableau à la scène qui est la rencontre du père et du fils, voilà ce que ça donne. Diapo suivante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une analyse qui a été faite par des critiques d'art sur la manière dont Rembrandt a illustré cette rencontre. Et quelque part, dans cette rencontre entre le père et le fils, il y a cette organisation qui repose sur deux triangles qui montrent le père et le fils totalement inscrits dans ce triangle. Un triangle qui va du père vers le fils, vers le bas, et un triangle du fils vers le père. Il y a d'un côté le premier triangle dont la couleur dominante est le rouge. Eh ouais, pour que le père accueille le fils, il y a la nécessité que le sang soit là pour accorder le pardon. C'était aussi la couleur des prélats de l'Église. Et ce triangle pointe vers le haut, c'est-à-dire vers la transcendance, vers Dieu lui-même. Et puis, comme c'est un triangle, ça évoque aussi la notion de Trinité. La stabilité aussi qui repose sur sa base, il y a quelque chose de stable que de rentrer dans une réconciliation et une relation avec Dieu. L'autre, c'est un triangle beaucoup plus pâle qui est quelque part pointé vers le bas, c'est-à-dire qui, d'ailleurs, a été pointé comme notamment la fragilité. Et puis, il y a plein de symboliques, je ne vais pas développer là, mais je trouve que l'analyse de ce tableau est intéressante. La diapo suivante, quelqu'un s'est intéressé dans l'analyse, si on relie les droites par des droites le sommet du losange formé par les deux triangles, on se rend compte que la tête du fils se trouve inscrite totalement à l'intérieur d'un cercle, à l'intérieur de ce losange. C'est-à-dire qu'il est bien, quelque part, l'objet de l'attention et le centre de l'accueil bienveillant du père. Et puis, si on suppose en filigrane sur la tête du fils un cercle transversé, traversé par la croix, on s'aperçoit qu'il y a nécessité que la croix soit au centre de la tête de l'homme pour que le pardon soit... Je trouve qu'il y a une symbolique là dans ce tableau qui est porteuse de plein d'indications et de signifiances. Et puis, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer aussi, je vais aller très vite, mais la suivante. Si on regarde la tête du père, on s'aperçoit que si on fait une droite par rapport à son visage, on s'aperçoit, et c'est quelque chose qui a toujours frappé dans ce tableau, c'est qu'il y a un angle à peu près de 11 degrés, mais qui montre que le père n'a pas un regard qui tombe sur le fils, c'est-à-dire qui serait celui d'un juge. Le père, dans cette parabole, n'est pas là comme un juge, il incline son visage. Et ça veut dire que quelque part, c'est un signe de bienveillance, une expression de sentiment d'amour. Il est dit dans la parabole qu'il a couru vers lui et il l'a pris dans ses bras. Et il y a quelque chose d'encore plus important qui a étonné depuis le XVIIe siècle. La diapo suivante, c'est ça. Rembrandt était un peintre pas amateur. On lui reconnaît quelques qualités dans la représentation. Et vous regardez les deux mains du père. Qu'est-ce qui vous frappe ? Plus fort ? C'est deux mains différentes. Et il y a une main qui est celle de gauche du père, à droite pour nous, qui est une main d'homme. Et la main de droite, on se dirait, mais il a mal peint, il ne savait pas peindre les mains, Rembrandt, c'est pas possible. Mais c'est volontaire, c'est une main de femme. C'est-à-dire que quelque part, il y a une main qui est forte, solide, et une main qui est étroite. Et ensemble, elles expriment un mystère, c'est celui-là aussi de la naissance et de la nouvelle naissance. Dieu est à la fois un père et une mère qui donne naissance au Fils qui revient vers lui. Le Dieu de Jésus-Christ est un père au cœur de mère. C'est ce que écrivait un écrivain qui s'appelle Yvan Mathieu. Il y a, selon Rembrandt, les mains d'un couple. Voilà un trait d'égalité des sexes qui fait de ce tableau du XVIIe siècle une représentation étonnamment contemporaine. Est-ce que tu as peur de revenir vers ton père ? Est-ce que tu as peur de perdre ce que tu vis à l'heure actuelle ? Alors je te le dis, Dieu est prêt à t'accueillir pour que tu découvres ce que c'est que d'être réellement fils et fille de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur, tu nous as parlé depuis le début de ce culte de cette nécessité de venir et de revenir à toi. Garde-nous, parce que nous avons fait ce pas il y a parfois des années, de ne plus trouver la nécessité de le faire tout à nouveau, de nous obstiner par orgueil à choisir d'autres voies, d'autres chemins, à ne pas voir que, ce faisant, nous nous privons à la fois de tout ce que tu es, mais aussi, Seigneur, de tout ce que nous sommes, des richesses que tu as déposées en nous, de l'appel que tu fais retentir dans nos vies et qui ne peut pas s'accomplir totalement parce que nous ne désirons pas rentrer en nous-mêmes, nous repentir de ce qui n'est pas bon pour nous, parce que nous ne désirons pas nous convertir, changer de direction. Alors, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, donne-nous de faire le choix de la confiance et de la foi, de nous abandonner et de lâcher prise à nos croyances, nos certitudes, nos volontés pour nous-mêmes. Donne-nous, Seigneur, d'être accueillis par toi, revêtus de vêtements nouveaux. Donne-nous simplement, Seigneur, face à ce choix qui est le nôtre, de choisir entre la vie et la mort, de choisir la vie et de te choisir toi. Amen.